On continue notre petite étude dans le livre de Jacques. Jacques, il comprenait les choses, la vie, autant que l'apôtre Paul, puis Jésus, puis les autres aussi, mais il va direct, lui, quand il parle de certaines affaires. Il n'est pas gêné. Puis, dans ses termes, quand il parle, il met des mots pesants. Vous allez le voir ce soir avec le sujet qu'on va méditer. On est dans la suite, on est rendu dans Jacques au chapitre 3, les versets 2. On va regarder de 2 à 5 ce soir. Le titre du message, on va l'avoir, excusez, peut-être pour 2 ou 3 mercredis, sur ce sujet-là, la langue. La langue, le membre qui nous rend imparfaits. On va voir la gravité de la langue. On va en regarder un peu à soir, puis encore 2 autres semaines. Puis, on va parler de la langue parce que, avec les versets qu'on va lire, puis qu'est-ce qu'on voit aussi dans d'autres versets, ça nous démontre comment c'est un membre, un tout petit membre, c'est le plus petit de nos membres, qui est excessivement dangereux. Autant qu'on peut faire du bien avec ça, autant que ça peut être très destructeur pour notre propre vie et pour la vie des autres. On va prendre conscience de la plus grande faiblesse de l'être humain, parce qu'on va voir que la majorité de tous nos péchés, ça commence là. Jacques met le doigt sur le problème le plus commun de tous, la langue. Dans le passage de Jacques, chapitre 3, les versets 2 jusqu'à 5, il dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons la mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La première chose que dans ce passage-là qu'il veut nous faire comprendre, c'est que il n'y a personne qui ne faille jamais dans sa vie chrétienne. Dans la première phrase qu'il mentionne dans ce passage-là, au verset 2, il dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Tout le monde bronche. Je dis pas que tout le monde court vers le péché, mais broncher, c'est comme s'enfarger, trébucher. Tu veux pas, mais ça peut arriver qu'on trébuche. Mais c'est pas que ça peut arriver, ça va nous arriver. Ça nous a arrivé de trébucher, puis ça va nous arriver de trébucher. L'apôtre Jean, lui, quand il en a parlé de ce sujet-là au niveau du fait qu'on trébuche, puis dans un des passages qu'il nous l'a expliqué, c'est que il nous explique la différence entre pratiquer volontairement le péché et trébucher. Ça, on voit ça dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 8. Jean, lui, quand il a écrit cette partie-là dans le Nouveau Testament, il dit « Nous ne pouvons jamais prétendre être sans péché. » Nous bronchons tous de plusieurs manières, que Jacques dit, puis Jean nous dit « Si nous là, je vous l'ai lu, je vous lis dans la version du Semeur, c'est plus facile à comprendre. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Le but, c'est afin qu'on pêche point. Mais si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, parce qu'il aura trébuché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voyez-vous, le but, c'est qu'on arrive à vivre une vie sans péché. C'est le but. Mais ça peut arriver qu'on trébuche. Puis si on dit qu'on n'a jamais fait de péché ou qu'on n'en fait jamais, on est menteur, puis la vérité n'est pas en nous. Il faut réaliser qu'on en fait, et c'est normal qu'un chrétien demande pardon à Dieu chaque jour. Dans la prière du Notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons. » Si on pense qu'on n'en fait plus, mais on oublie la prière du Notre Père, puis Jésus, ce qu'il a dit dans la prière, mais ça n'a pas rapport, vu qu'on pêche plus, il n'avait pas raison de dire ça. Donc, on est en train de dire que Jésus avait tort. On est en train de dire que Dieu est menteur. Dieu nous dit qu'on a besoin de demander pardon, mais nous, on se pense correct, puis on se dit, j'ai pas besoin, moi, j'en fais plus de péché. C'est ça qu'il nous dit. Il dit, si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, puis sa parole n'est pas en nous. Parce que si sa parole sera en nous, on écoutera, « Hey, il a dit dans sa parole, dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, donc ça se peut que j'en fasse des péchés. Hein? » Puis peut-être que plus que ça se peut, j'en fais encore. Je vise, il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Le but à atteindre, c'est qu'on ne pêche pas. Mais on ne peut pas prétendre être sans péché. Puis vous allez le voir, Jacques, il nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Quand Jacques a dit ça, on va voir de quelle façon qu'on va réaliser, oui, c'est vrai, on en a fait des péchés. Mais les gens le disent, Jésus le dit, la parole de Dieu nous le dit, on en fait des péchés, puis il faut demander pardon. Par contre, si ça nous arrive de trébucher, est-ce que nous voulons atteindre la perfection? C'est là qu'est la question. Un chrétien doit s'enligner, je dois devenir comme Jésus. Je dois arriver à être comme Jésus. C'est mon but. Puis là, le Saint-Esprit va nous aider à l'atteindre notre but. Puis ça prend l'aide de Dieu parce que ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Moi, peut-être, je trébuche puis je suis pas capable. Mais Dieu est capable de m'emmener là. Justement, dans Luc 6, 40, ça dit, le disciple, il est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli, ça veut dire tout disciple rendu mature, rendu mûr, rendu qui a atteint le maximum de sa croissance. Ça, c'est le but à atteindre, devenir comme Jésus. Maintenant, si nous voulons arriver à la perfection, est-ce que vous voulez arriver à la perfection?
Amen.
Oui. Bon, mais là, la première place, il faut commencer à veiller, c'est sur notre langue. Jacques, il dit que la majorité de nos péchés commence par la bouche. Dans Jacques 3, le verset 2, il dit, « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Est-ce qu'il y a un homme qui est capable de tenir tout son corps en bride? Est-ce que ça existe? Non. Il n'y a aucun homme qui est capable de tenir tout son corps en bride. Dieu, son Saint-Esprit, est capable de nous amener à tenir notre corps en bride. Parce que la Bible, elle nous dit que dans le fruit de l'Esprit, il y a la tempérance. La tempérance, là, c'est la maîtrise de soi. Être capable de se maîtriser. Nous, on n'est pas capable de le faire, mais Dieu est capable de nous rendre comme ça. Mais Jacques, il dit, si quelqu'un bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de nous tenir. Donc, si on n'est pas capable de se tenir en bride, ça veut dire, tout le monde bronche par la parole. Tout le monde dit parfois des choses qu'il n'aurait pas dû dire. De parler, puis de dire des choses méchantes, des choses qui n'ont pas rapport, des choses pas vraies. Il y a toutes sortes de choses. On va en voir un peu plus loin dans ces partages de Jacques. Jésus a renchéri cette idée-là comme quoi que l'homme il est incapable d'avoir continuellement des bonnes paroles dans sa bouche. Jésus l'a dit. Jésus il a renchéri en nous disant qu'il est impossible de toujours dire de bonnes choses à cause de notre cœur méchant. Il est là le problème. Dans Matthieu 12, 34, Jésus dit, il parle à des gens puis il leur dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Jésus a voulu nous enseigner par là que chaque fois qu'on dit quelque chose de mauvais de notre bouche, ça a commencé dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté, dans les décisions qu'on prend. Il y a des réactions. On médite des affaires, on pense, on a des émotions sur une situation, ça nous fait réagir, on vient en colère, ou on est jaloux, ou la revanche, on veut se revenger. On médite, on a des émotions, puis on embarque dans notre cœur qui est rendu mauvais. Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Des mauvaises paroles. Là, il va y avoir des insultes, des craques, des pics, des malédictions, des toutes sortes de paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Ce qui sort de notre langue, ce qui provient de notre langue, ça vient du cœur. C'est le cœur qui médite les mauvaises choses. Puis le dimanche passé, j'en ai parlé qu'il fallait veiller sur notre cœur, qu'il fallait... quand on cherche la sanctification, nos pensées, il fallait avoir des pensées pures, dignes de louange, qui méritent l'approbation, qui est vertueux, tout ça. Quand tu as des pensées pures, saintes, tu vas avoir des paroles sanctifiées. Mais si notre cœur est dans le mauvais, il va sortir des mauvaises paroles. La Bible nous enseigne dans plusieurs passages qu'on doit surveiller notre cœur. Notre cœur, ça comprend nos pensées et aussi nos sentiments. Quand t'es déçu par une personne qui t'a dit de mauvaises paroles, puis ça te fait tu fais du ressentiment, tu peux même faire de l'amertume, tu peux faire de la colère, tu peux faire de la jalousie, tu peux faire de la vengeance, d'un désir de vengeance. Toutes ces émotions-là, mêlées avec tes paroles, c'est ça le cœur, là. Qu'est-ce qui nous affecte le plus? Il y en a qui, émotivement, qui sont blessés, beaucoup blessés, puis ils réagissent souvent avec des paroles qui sont pas bonnes. Il y en a qui, c'est dans leur méditation, peut-être que dans leur pensée, ils sont un peu enflés, l'orgueil, là. On se pense supérieur. Quel genre de parole qui sort? Toi, t'es rien, toi. Tu penses, t'es hautain, là, tu t'es enflé. T'abaisses les autres, t'es écrase, tu penses supérieur. Ça avec, ça menait des formes de méchanceté qui peuvent sortir de notre bouche. Dans le Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Jésus a dit « Je vais mettre en vous le Saint-Esprit qui va être une fontaine, une source d'eau qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. » Mais si on n'est pas connecté, là, c'est la source du Daniel Poulain avec toutes ses mauvaises paroles qui peuvent sortir. C'est pour ça qu'il est important de rester connecté avec le Seigneur, puis de laisser le Seigneur remplir notre cœur de ses pensées pures, puis là, on veille sur nos pensées pour rejeter mauvaises pensées, puis d'entretenir que des bonnes pensées. Si on a raison mettons, il est arrivé une situation, puis on est blessé, faut prier pour la personne. C'est pas pour rien que Jésus a dit « Priez pour vos ennemis, de les bénir, nos ennemis. » Quand tu es béni, c'est de lui donner des bonnes paroles. Savez-vous, quand on dit une bénédiction, bénédiction, le mot, là, bénédiction. Diction, c'est une parole. Béni, c'est bien. C'est des paroles de bien qui doivent sortir de notre bouche. Des malédictions, c'est des dictions en mal. Voyez-vous? Fait qu'un chrétien est appelé à bénir ses ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Un cœur enflé, parce que là, ça est une raison qui peut nous amener à avoir des pensées, ça nous le dit. Un cœur enflé n'est que péché devant Dieu. Dans Proverbe 21, verset 4, ça nous dit, « Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants ce n'est que péché. Fait que si tu es alimenté qu'un cœur hautain, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Des paroles blessantes, des paroles qui piquent les autres, des paroles qui les abaissent, qui les font sentir qu'ils sont rien, qu'ils sont pas importants. Là, Jacques est en train de nous expliquer, il y a des grandes choses dans cette vie qui peuvent être contrôlées par une petite affaire. Il nous parle d'un gros bateau. Il nous parle aussi d'un cheval. Un cheval, c'est gros, un cheval. Tu y mets un mort dans la bouche du cheval. Ça, c'est la pine qu'ils mettent, tu sais, avec le harnais. Puis tu peux mettre deux harnais après ça, là. Puis des guides. Hein? Des guides. Puis juste avec ça, là, tu peux contrôler ce gros cheval-là. Puis il dit un gros bateau, là. Puis il est poussé en plus par des gros vents et des grosses vagues. Il y a juste un petit gouvernail, la petite palette en arrière qui se fait aller, puis ça fait bouger le bateau, puis ça l'envoie ce qu'il doit aller. Juste un petit morceau-là. Mais il veut comparer la langue, ça fait la même chose. Juste une langue qui parle puis qui se vante. Je vais faire ci, je vais faire ça. Comme si tu serais en contrôle de quelque chose. Plus loin, on va le voir dans l'étude, il dit, on devrait dire, si Dieu le veut, nous ferons ci, ci ou cela. Mais quand par notre bouche, on se pense des maîtres de notre navire, puis on se vante de grandes choses, puis on mène notre vie, mais on peut l'amener dans la mauvaise direction aussi. Hein? Il dit dans Jacques 3, le verset 3 à 4, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Fait qu'une langue qui n'est pas contrôlée, puis si... Il y a toutes sortes de méchancetés qui sortent. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à vous qui êtes le navire? Puis Jacques est en train de nous dire au début, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, il est capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire que tu veux diriger ce bateau-là, il faut que tu contrôles le petit comment ça s'appelle ça, l'affaire en dessous? Le gouvernail, c'est le. Qu'est-ce qui est en haut, mais le.
Un gouvernail, non.
En arrière?
En avant, c'est la roue.
La roue?
Ouais.
Bon, mais le gouvernail. Mais imaginez que la langue, c'est le gouvernail. Si vous voulez devenir être parfait, il faut que vous commencez. Que soyez capable de maîtriser le gouvernail. Pour que vous puissiez être capable d'aller dans la bonne direction. La langue est un petit membre et fait beaucoup de mal, que Jacques nous dit. Dans Jacques 3, 5, il dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Juste un petit feu de camp, avec deux roches. Tu pars un petit feu. Tu le laisses aller, là, c'est pas long, oups, la forêt est en train de passer au feu. La langue est dangereuse. Elle chiale, elle critique, elle cherche souvent à nous élever soi-même puis à abaisser les autres, sans compter toutes les paroles impures qu'on peut avoir, toutes les paroles méchantes. Dans Jude 1, 16, nous parle de certaines personnes qui sont pas reconnues comme étant sauvées. Mais quand même, ces données-là comme exemple, c'est pour nous dire de faire attention. Il dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voyez-vous, murmurer, se plaindre, et avoir des paroles hautaines, c'est des paroles méchantes qui fait que ces personnes-là faisaient du désordre dans l'Église du Seigneur. On voit ça dans Jude. Si vous voulez lire le contexte, allez lire ça dans Jude. Un constat biblique de tout le monde devant Dieu. On était tous dans cette position-là avant de venir à Jésus. Romains 3, le verset 9 à 10, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis là, si on va lire le verset 13, là, il est en train de décrire toutes les sortes de péchés que tout le monde a fait, puis il arrive au verset 13, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Fait que notre gosier, il dit, c'est comme un tombeau où ce qu'il y a du monde enterré là, là, puis qui est ouvert. Ils ne sont que de, peut-être de l'odeur de la décomposition. Ils servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Un aspic, c'est un serpent. C'est que dans notre bouche, en dessous de nos lèvres, on a du venin de serpent. Puis notre bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voyez-vous, ça décrit les comportements de tous les humains. Il dit, tous sont sous l'empire du péché, il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis il dit, tout le monde sont comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit tantôt, il dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis vu que notre cœur était corrompu, mais de notre bouche, il ne sortait que de la corruption. Qui peut dire qu'il n'a jamais prononcé une mauvaise parole depuis qu'il est au monde? Personne. On est tous conscients qu'on est pécheurs. C'est pour ça qu'on peut pas se vanter. On peut pas se penser. Puis de se laisser aller par notre langue qui veut nous vanter, puis de se penser supérieur. On est tous des pécheurs. On a toutes fait des choses qui déplaisaient à Dieu, qui est un péché, puis qu'il a fallu que Jésus nous les pardonne pour qu'on puisse être admis dans sa présence. Donc, des sujets de se glorifier, il n'y en a aucun. Des sujets de critiquer puis de chialer, y en as-tu?
Oui.
Non. Non. Même si ça va mal, il faut apprendre à dire, à rendre grâce à Dieu en toute chose. Job, là...
Hein? Des,
ouais, des personnes qui en font, oui, il y en a des personnes qui en font. Est-ce que on doit réagir en chiolant et en critiquant? C'est à ça la question.
Non.
Non. Même si tout va mal, qu'est-ce qu'on doit laisser sortir de notre bouche?
Des louanges
à Dieu, des prières à Dieu, des encouragements aux autres. Job, là, il avait une raison de se plaindre, de critiquer, de chialer, puis il a rendu gloire à Dieu. Il avait perdu toute sa santé, il était malade, couvert d'un ulcère, à grandeur du corps, sa peau, il n'y a même pas un endroit qui était sain. C'était comme une plaie ouverte à grandeur du corps, comme ulcère. Il était en souffrance complète dans son corps. Il avait perdu toute sa famille. Tous ses enfants sont décédés d'une shot. En plus, toutes ses richesses, il était un homme excessivement riche. C'est tout fait voler dans la même journée. C'est tout fait voler son stock. Puis ça, c'est une attaque du diable qu'il a vécu. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Sa femme, elle a dit, « Maudit Dieu, puis meurt! » Lui, il a ouvert la bouche et Dieu a donné... Dieu a ôté, que son nom soit béni éternellement. Ça, c'était des paroles justes. Je ne dis pas qu'il a dit ça toute sa vie, tout le temps, dans toutes les situations, mais dans cet exemple-là qu'il nous est donné, faut pas se laisser aller aux murmures, puis aux critiques, puis aux chiolages. Faut apprendre à prier, à remercier Dieu de ce qu'on a. Parce que même si ça va mal aujourd'hui, le Seigneur va nous en sortir, ça va aller mieux. Une autre journée. Fait que remercions le Seigneur. Se plaindre, on laisse sortir encore des mauvaises paroles. N'oublions pas, dans le Seigneur, un chrétien rempli de l'amour de Dieu veillera sur sa langue. Dans 1 Corinthiens 13, 4, ça nous parle au niveau de la charité. La charité est comme ci, la charité est comme ça. Là, ça nous dit la charité est patiente, est pleine de bonté. La charité est pas envieuse. La charité ne se vante point. Voyez-vous, il n'y a pas de mauvaises paroles dans la charité. Quand tu marches rempli de l'amour de Dieu, tes paroles, c'est de la patience, de la bonté, du service pour les autres, de faire du bien, et etc. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pas tomber dans tout ce que Jacques est en train de nous expliquer. Puis, en plus de ça, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu chercheras à communiquer de bonnes paroles pour l'édification des autres. Si on voit ça dans Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. » On peut-tu en laisser sortir une de temps en temps?
Non,
aucune. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, puis qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Ça, c'est les paroles qui doivent nous animer. Un dernier verset, bon, je reviens encore sur Jacques 3, 5. Voici comment, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Juste un petit peu de commérage, de critique, de chiolage dans l'Église. Toute l'Église peut embarquer dans le mémérage, puis dans le commérage, puis dans le chiolage. Puis le feu de la destruction va être répandu. Ça ne sera pas long que l'amour fraternel n'est plus là. Puis le contraire, quand il dit un petit feu peut embraser une grande forêt, il ne faut pas le voir juste du côté négatif. Pour un chrétien, au lieu d'enflammer sa vie par le feu de la destruction, il l'enflammera de la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu, puis là tu rouvres la bouche, puis c'est la bénédiction de Dieu, puis le feu de Dieu qui va s'étendre. Un petit feu peut embraser une grande forêt. On veut-tu voir la main de Dieu dans tout cela? Mais il faut demander au Seigneur de nous remplir de sa présence, puis de son esprit, puis sa puissance, puis d'ouvrir la bouche pour dire de belles paroles, puis ça communiquera une bénédiction à ceux qui nous entourent. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous parle sur la parole. Je te demande de nous ouvrir les yeux, les oreilles, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ce qu'on fait, Seigneur, pour qu'on tombe plus dans ces choses, qu'on puisse avoir dans notre bouche que de la prière, de la louange, des bonnes paroles pour bénir les gens, pour les édifier, les fortifier, puis des paroles remplies de ton feu, le feu du Saint-Esprit, puis qui puissent enflammer les gens, puis qu'on soit tous bouillants pour toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous amène à prendre le contrôle sur notre langue. Tu nous dis que quelqu'un capable de tenir sa langue en bride va être capable de contrôler tout son corps. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, amène-nous à être capable qu'on puisse, notre corps puisse être tout entier conduit dans la justice et la droiture et dans la sainteté afin d'être parfait comme Jésus. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.